Et je vous invite, pour notre moment de prédication, à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse. Nous allons parcourir ensemble le chapitre 12 du livre de la Genèse, qui concerne l'appel d'Abraham, qui à cette époque, en Genèse 12, ne s'appelle pas Abraham, mais s'appelle Abram. Dieu va se révéler à lui pour lui faire connaître la voix du juste, la voix de celui qui a la foi, si bien que plus tard dans l'Écriture, et aujourd'hui encore, Abraham est appelé le père de tous les croyants, le modèle de celui qui marche par la foi avec Dieu. Et nous allons donc lire ce livre de Genèse chapitre 12 pour découvrir Abraham qui va s'engager avec Dieu, et Abraham qui va aussi être confronté à ses limites humaines. Et je ne sais pas si vous saviez, l'année dernière, j'ai dû faire 3 déménagements en une seule année, ce qui a été pour moi source de beaucoup de fatigue, beaucoup d'anxiété, beaucoup de difficultés. Et si j'en parle ici, c'est parce que dans Abraham, dans cet appel que Dieu lui lance, nous voyons aussi un homme qui va devoir déménager, qui va devoir tout abandonner, changer de vie, changer de contexte, laisser derrière lui tout ce qui faisait qu'il était Abraham, pour démarrer une nouvelle vie avec Dieu. Nouvelle vie qui est symbolisée par l'alliance aussi que Dieu fait avec lui. Dieu qui s'engage envers Abraham. Lorsque nous sommes appelés à déménager, souvent nous le faisons par choix, parce qu'on pense que peut-être on va déménager pour trouver un meilleur travail, peut-être un meilleur endroit, un meilleur logement, avec plus d'espace, plus de terrain, plus de calme peut-être. Mais c'est rarement pour nous aussi, parfois, une contrainte, ou pour des raisons de travail, nous devons quitter une région et attaquer un nouvel endroit pour vivre et pour s'installer, ce qui nous demande beaucoup d'adaptation, ce qui nous bouscule en fait dans nos habitudes et qui nous impose certaines contraintes dont on se serait bien passé. Abraham donc va être appelé, lui aussi, à déménager, sauf que lui va le faire par choix. Il va le faire par choix parce qu'il est appelé par Dieu et qu'il choisit de faire confiance à Dieu pour qu'il prenne soin de lui et pour que dans son voyage, dans cette vie d'étranger et de voyageur sur la terre, Dieu va lui accorder bien plus que tout ce qu'il va perdre en quittant son confort. Nous allons donc commencer à lire Genèse chapitre 12. Et je vais déjà lire les versets 1 à 9. L'Éternel dit à Abram, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit ensuite encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Jusqu'ici la parole de Dieu que nous reprendrons plus tard, où nous découvrons déjà dans ce premier passage, cette première partie du chapitre 12, Abraham qui s'engage avec Dieu. Abraham s'engage avec Dieu, ce qui va lui coûter quelque chose. C'est la chose peut-être que j'aimerais que vous reteniez de plus important ce matin, de tout ce que je vais dire. Vivre par la foi bouscule notre confort. Abraham, lui aussi, doit passer par cette case. L'Éternel se révèle directement à lui, il lui adresse cette parole: Va-t'en, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Et nous, aujourd'hui, avec le recul, si nous avons une culture un peu de la parole de Dieu, nous savons que Dieu va accorder beaucoup de bienfaits à Abraham, il va le bénir de façon conséquente. Mais si vous remarquez, si je m'arrête simplement au début de l'appel d'Abraham, lorsque Dieu appelle Abraham à quitter son pays, quitter sa famille, il s'engage, Dieu s'engage à bénir Abraham de plusieurs façons. En premier, il lui promet une grande descendance. Ce qui, à cette époque de l'histoire humaine, est une chose assez importante, parce que du temps des patriarches, avoir une famille, avoir des enfants à qui on peut transmettre les biens, c'est quelque chose de primordial. Et dans le monde antique, on voyait comme une malédiction le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants et d'être stérile. Et malheureusement, pour Abraham et sa femme Saraï, pour l'instant, ils n'ont pas d'enfants, parce que justement, leur couple est stérile. Vous comprenez là que la bénédiction d'avoir une grande descendance que Dieu adresse à Abraham revêt une importance capitale pour lui, parce qu'actuellement il est incapable d'avoir des enfants. Leur couple est stérile. Ils sont assez âgés. Le texte nous dit qu'Abraham a 75 ans, même si à l'époque on vivait plus longtemps, certes. Malgré tout, ils n'ont toujours pas de descendance pour veiller à ce que la famille ne s'éteigne pas avec Abraham. Dieu s'engage donc à lui donner ce que Abraham désire, une grande descendance. En deuxième, Abraham lui promet également de faire de lui une grande nation. Non seulement il aura une descendance, mais la descendance qui viendra d'Abraham sera une grande nation. Ce n'est pas toutes les familles qui peuvent se targuer de former une nation à part entière. Et dans cette bénédiction que Dieu donne, Abraham, sa descendance, formera une nation à elle seule. Ensuite, Dieu promet à Abraham de rendre son nom grand. Un nom qui est grand, c'est-à-dire un nom qui est connu, un nom qui impose le respect. Et aujourd'hui encore, le nom d'Abraham est connu, il est respecté. Nous voyons là encore un effet de la bénédiction de Dieu sur Abraham, qui a choisi cet homme pour le bénir et rendre son nom grand. Ensuite, un autre aspect important de la bénédiction de Dieu, Dieu donne à Abraham cette mission d'être son représentant en disant que toutes les nations seront bénies en lui. Ce qui nous montre bien que Abraham va avoir un rôle central dans le plan de Dieu. Dieu a pour projet d'utiliser Abraham pour bénir toutes les nations de la terre. Voilà pourquoi aussi Dieu a choisi Abraham. Mais tout cela ne va pas sans un engagement aussi de la part d'Abraham. Dieu lui promet toutes ses bénédictions, mais en contrepartie, Dieu lui demande quelque chose. Dieu lui demande d'abandonner tout ce qui fait sa vie et son confort personnel au moment où Dieu se révèle à lui. Le texte nous dit qu'il est à Charan et Dieu l'appelle à quitter tout cela pour vivre une vie de nomade, pour le suivre dans le désert et pour aller, si vous avez remarqué dans le début de ce chapitre 12, pour aller dans le pays que je te montrerai. Nous découvrons là qu'Abraham ne sait même pas où il va. Dieu lui dit simplement, tu iras là où je te dirai d'aller. Et vous comprenez bien, si on se met à sa place, à Abraham, que c'est une situation qui est très inconfortable. Abandonner tout son contexte, toutes ses habitudes, tout son confort, pour aller même pas, on ne sait même pas où il va aller. Et dans cet appel, Dieu veut éprouver Abraham pour voir s'il aura confiance en lui jusqu'au bout. Est-ce que Abraham va choisir de faire confiance à Dieu et de s'en remettre à lui pour qu'il prenne soin de lui? Abraham est bousculé dans ses petites habitudes et il va être forcé dans cette situation de faire entièrement confiance à Dieu pour prendre soin de lui. Abraham fait le choix de suivre l'Éternel, il obéit au commandement que l'Éternel lui donne, Lui qui jusque-là vivait en Mésopotamie, qui était à l'époque la nation la plus puissante du temps d'Abraham, c'était le premier pays mondial. Donc, vivant dans le plus grand pays du monde, on imagine assez aisément qu'Abraham avait un certain confort de vie, d'autant que le texte souligne bien que lorsqu'il quitte Charan, Abraham a des serviteurs, il a des troupeaux. Donc ce n'est pas juste un homme qui va partir avec 4 ou 5 personnes de sa famille, mais c'est tout un clan qui va s'en aller et qui va entamer cette vie de nomade. Abraham laisse derrière lui la Mésopotamie, toute sa famille, toutes ses habitudes, son confort, pour vivre cette vie de foi avec Dieu, en comptant sur lui. Comme je l'ai dit, il quitte la ville de Charan. Or, nous savons que Abraham, ailleurs dans l'Écriture, la Bible nous dit qu'il vient d'Ur en Chaldée, ce qui n'est pas du tout au même endroit. Ur en Chaldée, c'est au sud-est de la Mésopotamie, alors que Charan, c'est beaucoup plus au nord de la Mésopotamie, et il y a plusieurs milliers de kilomètres entre les deux. Ce qui nous montre bien qu'un voyage avait déjà été initié par la famille d'Abraham avant que Dieu appelle Abraham dans Genèse chapitre 12. Et si nous lisons quelques versets avant le chapitre 12, donc dans le chapitre 11, je vais vous lire les versets 31 à 32. Térakh prit Abraham son fils, et Lot fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans. Et Térakh mourut à Charan. Ces quelques versets nous renseignent bien qu'un voyage avait déjà été initié, non pas par Abraham, mais par le père d'Abraham, Térakh, qui avait déjà entrepris ce voyage de quitter Ur en Chaldée pour se rendre, ces versets nous disent bien, en Canaan. Ultimement, le texte de la parole de Dieu ne nous dit pas ce qui a motivé ce départ de Térakh. Mais néanmoins, nous voyons que ce voyage a été initié et nous voyons qu'ils se sont arrêtés à Charan. Ils avaient donc comme objectif en quittant Ur d'aller en Canaan, mais ils se sont arrêtés à Charan. Et le voyage va reprendre, si vous remarquez, à la mort de Térakh. Lorsque le père d'Abraham meurt, Abraham va décider, sur l'appel de Dieu, de se mettre à nouveau en route et, si j'ose le formuler ainsi, d'accomplir enfin le voyage qui avait été initié par son père. Et je trouve intéressant de voir ici que, là c'est moi qui parle et ce n'est pas la parole de Dieu qui parle, peut-être que l'Éternel s'était révélé à Térakh par rapport à cet appel de quitter Ur en Chaldée pour se rendre en Canaan. Et peut-être que, en attaquant ce voyage, le père d'Abraham, eh bien, a décidé d'abandonner et de rester à Charan, en Mésopotamie, dans son confort. Dans une nation qu'il connaît, avec des coutumes et des dieux qu'il connaît, parce que nous savons que la Mésopotamie avait aussi une pratique religieuse, qui était donc idolâtre et qui ne recherchait pas l'éternel Dieu. Et peut-être que Térakh s'est arrêté là, qu'il a abandonné ce parcours de foi que peut-être Dieu a engagé avec lui. Ultimement, comme je l'ai dit, ce n'est la parole de Dieu ne le précise pas, donc là c'est moi qui parle. Mais nous voyons malgré tout, je ne pense pas que ce soit anodin de voir que le voyage va reprendre à la mort du père d'Abraham. Térakh va décéder, Abraham va prendre le rôle de chef de famille, et c'est là que le voyage avec Dieu va reprendre. Abraham donc va faire ce choix, lui, de suivre l'Éternel. Il va tout abandonner. Il va entrer dans le pays de Canaan, en laissant derrière lui toutes les coutumes de la Mésopotamie, toutes les divinités aussi qui étaient les siennes, lorsque Dieu l'appel. Poussé par Dieu, en réalité, il va faire ce que son père n'a pas réussi à faire, aller dans le pays qui deviendra plus tard le pays promis, le pays de la bénédiction, où déjà dans notre texte, chapitre 12, nous voyons que Dieu va donner ce pays en possession à la postérité d'Abraham. Si vous remarquez, dans la suite de notre passage que nous avons lu, dans le parcours de foi qu'Abraham a avec Dieu, à chaque fois qu'il arrive à un endroit en Canaan, il va décider de bâtir un autel à l'Éternel. Où nous voyons là l'exemple d'Abraham, celui qui, dans ses voyages, va toujours mettre un pied d'honneur, une priorité dans sa vie, de rendre gloire à Dieu pour le chemin parcouru jusque-là, la bénédiction qui est la sienne et qui est donnée par Dieu. Abraham, donc, dans tous les endroits où il va, la première chose qu'il fait, c'est de bâtir un autel à l'Éternel pour montrer sa reconnaissance à Dieu. Abraham, en fait, s'attache à l'Éternel. Il manifeste par là sa dépendance par rapport à Dieu. Il se place d'abord, dans un premier temps, à Sichem. Un peu plus loin, il s'installe non loin de Bethel. Et dans tous ses voyages, lorsqu'il s'installe en Canaan, l'Éternel accompagne Abraham dans tout ce qu'il fait. Et il finit par lui promettre même que le pays où il réside actuellement, en tant qu'étranger et voyageur, un jour appartiendra à sa postérité. Jusque-là, nous sommes réjouis de voir Abraham, qui est un modèle de foi, comme aussi ce modèle est réutilisé dans le Nouveau Testament. Nous découvrons un homme qui nous montre l'exemple, un homme capable de laisser derrière lui tout son confort pour suivre Dieu, pour s'attacher à lui et manifester sa dépendance par rapport à la protection que Dieu lui donne. Mais maintenant, nous allons reprendre la lecture du chapitre 12, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20, et nous allons découvrir qu'Abraham, tout comme nous, va être confronté à ses limites humaines, parce que lui, c'est un homme. Et si jusque-là, il a marché par la foi, il est un exemple, nous allons voir aujourd'hui, maintenant, à partir du verset 10, qu'il ne s'est, lui aussi, il a fait des erreurs, et il y a eu des fois où il n'a pas vraiment marché par la foi. Je reprends la lecture. Verset 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme !» et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme ? Pourquoi as-tu dit « c'est ma sœur » ? Aussi l'ai-je prise pour ma femme ? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Jusqu'ici la parole de Dieu, où nous découvrons, comme je l'ai dit, qu'Abraham est confronté à ses limites humaines. Le temps de l'épreuve, en fait, arrive. Dieu s'est engagé envers Abraham. Abraham a commencé à marcher par la foi avec Dieu. Et comme pour nous aujourd'hui, lorsque nous nous engageons avec Dieu, le temps de l'épreuve doit arriver. Dans notre texte, Abraham, dans son épreuve, est placé dans une situation délicate. Il y a une famine. On ne trouve plus de nourriture en Canaan. Et à cette époque, il faut savoir, comme aussi dans les temps bibliques, l'Égypte a toujours été un lieu où on peut trouver un secours, un lieu de refuge. Plus tard même, le Seigneur lui-même, dans ses premières années de vie, lorsque Hérode voudra faire mourir tous les enfants, va trouver refuge en Égypte le temps que Hérode meure. Et donc Abraham choisit dans cette situation délicate d'épreuve, avec cette famine, de se réfugier en Égypte. Le texte biblique ne porte pas de jugement sur cette décision d'Abraham, je n'en porterai pas non plus. Je remarque juste quand même que Dieu n'est pas consulté par rapport à ce choix qu'Abraham fait. Mais peu importe, Abraham fait le choix de se déplacer et il va arriver en Égypte. Seulement, l'épreuve ne s'arrête pas là parce que Abraham réalise quelque chose en entrant en Égypte. Il dit à sa femme Saraï, « Mais tu es plutôt belle, tu es une femme qui est belle, et les Égyptiens, quand ils vont te voir, ils vont désirer te donner à Pharaon. Et donc Abraham réalise bien que sa vie est en danger parce qu'il pense, dans sa peur, que les Égyptiens vont le mettre à mort, qu'ils vont prendre sa femme et la donner tout simplement à Pharaon. Voilà ce que Abraham se dit dans sa tête. Et c'est là que nous voyons qu'Abraham est confronté à ses limites dans cette épreuve, parce qu'il agit de façon très humaine. Il réfléchit à vue humaine, qu'est-ce qui peut lui arriver, et il va prendre peur. Alors que, si vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure, Dieu s'est engagé pour faire de lui une grande nation, pour lui donner une descendance qui est nombreuse, si bien donc que Abraham est sous la protection de Dieu. Et pourtant, Abraham doute. Il a peur et il va proposer un stratagème à son épouse, Saraï, pour se faire sa propre petite protection. Il va dire à Saraï, prétends que tu es ma sœur. Comme ça, on ne dira pas que tu es ma femme, et au moins, eh bien, je serai protégée, et les Égyptiens ne me feront pas de mal pour se faire bien voir de toi, vu que tu es belle de figure et qu'ils vont te remarquer. Et c'est exactement ce qui se passe. En se faisant passer uniquement pour le frère de Saraï, Pharaon va remarquer Saraï, qui est très belle, il va l'incorporer dans son harem, j'ose le dire, parce que le texte est assez sobre. Le texte dit simplement que la femme est conduite dans la maison de Pharaon. Il faut bien comprendre par là que Saraï va devenir une des femmes de Pharaon, si bien que plus tard, c'est aussi pour cela que la malédiction va tomber sur eux. Et en échange, Abraham, lui, va récolter beaucoup de présents. Pharaon va lui faire beaucoup de cadeaux, comme il l'avait prévu. Les Égyptiens vont prendre soin de lui à cause de Saraï, qui est belle de figure et qui est remarquée par Pharaon. Le souci, vous voyez jusque-là, Abraham qui fait cette solution humaine, qui va donner ce mensonge en prétendant simplement être le frère de Saraï, ce qui, si vous connaissez un petit peu l'écriture, est une demi-vérité, parce que effectivement, Saraï, dans les versets que nous avons lus tout à l'heure, nous remarquons que Saraï est la demi-sœur d'Abraham. Donc lorsqu'Abraham dit c'est ma sœur, ce n'est pas un mensonge pur et dur, mais c'est une demi-vérité. Et vous savez, on dit aujourd'hui encore que les meilleurs mensonges sont des demi-vérités. C'est exactement ce que fait Abraham. C'est effectivement sa demi-sœur, mais c'est aussi sa femme. Et il néglige de le dire aux Égyptiens lorsqu'il arrive en Égypte pour se protéger. On remarque en fait ici une absence de Dieu de ses premiers versets. À partir du verset 10, on voit Abraham qui fait ses propres décisions pour se protéger lui-même en allant se réfugier en Égypte et en mettant en place ce stratagème pour assurer sa sécurité, qui produira dans un premier temps des bénédictions pour lui. Pharaon va lui donner des troupeaux, des serviteurs et des servantes. Donc jusqu'ici, pour Abraham, tout va bien. Il est protégé. Sa femme, qui prétend être juste sa sœur, est auprès de Pharaon, on prend soin de lui, tout va bien, on lui fait des cadeaux, et Abraham peut récolter ici le salaire de l'impiété, le fait qu'il n'a pas voulu compter sur la protection de Dieu. Et pourtant, Dieu ne va pas en rester là, parce que Dieu a un plan pour ce couple, Abraham et Saraï. Dieu veut les utiliser pour être ses représentants, pour propager la connaissance de Dieu dans le monde. Et Dieu ne peut pas souffrir cette relation qui n'est pas normale entre notamment Saraï et le Pharaon. Si bien que le texte nous dit que Dieu fait venir sur la maison de Pharaon une grande malédiction, de grands fléaux sur cette maison parce que Pharaon a pris Saraï pour femme. On voit ici l'intervention de Dieu qui ne va pas laisser la situation telle quelle. Et qui va maintenant renverser la situation en utilisant non pas Abraham comme son porte-parole, mais le pharaon lui-même. Parce que si vous remarquez, le pharaon, lui, il comprend pourquoi la malédiction est sur lui et sur sa famille. Il va faire convoquer Abraham et il va lui dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Cette femme, tu as prétendu que c'était uniquement ta sœur, mais en fait c'est ta femme. Vous voyez que Pharaon est au courant. Pharaon sait ce que Abraham a mis en place. Et le texte biblique ne nous dit pas comment il l'a su. Peu importe. Malgré tout, il sait. Et devant cet état de fait où il a dans son lit une femme qui n'est pas la sienne et qui appartient à Abraham, Il va faire des reproches à Abraham, le mettre devant son mensonge. Pourquoi est-ce que tu as fait cela alors que tu n'aurais pas dû? Et maintenant, je vais te renvoyer. Prends avec toi ta femme, prends avec toi tes possessions et va-t'en. Ultimement, Pharaon va chasser Abraham de l'Égypte. Nous voyons là que Abraham ne va pas partir la tête haute, mais beaucoup plus dans la honte d'être chassé du pays. Mais malgré tout, vous voyez là cet exemple aussi que nous voyons dans le Pharaon, qui il aurait pu aussi décider de mettre à mort tout le monde, parce qu'il en avait le pouvoir, il avait droit de vie et de mort sur tout le monde. Mais malgré tout, il va simplement les chasser, ce qui nous montre bien que Abraham, même dans sa désobéissance, même dans cette solution humaine qu'il a voulu mettre en place, et malgré tout, toujours sous la bénédiction de l'Éternel qui s'est engagé pour lui, pour faire de lui une grande nation et être une bénédiction pour la terre entière. Nous voyons donc là l'engagement de Dieu auprès de sa créature. Même si sa créature lui est infidèle, Dieu lui demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Dieu s'est engagé envers Abraham et cet engagement, il est inconditionnel. Finalement, donc, Abraham est chassé, et si vous remarquez, je trouve aussi important de voir qu'il prend avec lui tous ses troupeaux, tous ses servantes et tous ses serviteurs. Il les emmène avec lui aussi hors d'Égypte. Sous-entendu, tous les cadeaux qui ont été donnés à Abraham et qui sont le salaire en fait de son péché, où Abraham a reçu ses présents parce qu'il était le frère de Saraï, soi-disant, eh bien, il l'emmène, il le garde et l'emmène avec lui. Si bien que nous découvrons en fait dans le caractère de Dieu quelqu'un qui continue à bénir sa créature qui lui désobéit. Parce que pour que Abraham soit une grande nation, pour que son nom devienne grand et qu'il soit un témoin de Dieu auprès des nations, eh bien sa tribu doit grandir, son clan doit grandir. Et donc il doit accumuler plus de serviteurs, plus de troupeaux, ce qui le placera en position de force là où il sera en Canaan. Et Dieu permet ceci, même dans ce contexte où il est en Égypte et où il n'a pas compté sur la protection de Dieu sur sa vie. Je trouve beau de réaliser ici le caractère de Dieu, qui aime sa créature même quand elle s'éloigne de lui. Le pharaon se montre donc davantage croyant dans cette fin de texte que Abraham, ce qui nous surprend beaucoup et qui nous montre bien que Abraham est pour nous un modèle, c'est le père de la foi, le père de tous les croyants. Gardons quand même bien à l'esprit, mes amis, qu'il n'était pas sans défaut et que lui aussi a fait des erreurs dans sa vie. Que ce soit aussi pour nous un modèle déjà à ne pas suivre par rapport à cet épisode malheureux de l'Égypte, mais que ce soit aussi pour nous le sujet de nous rapprocher d'Abraham, parce que nous aussi, nous sommes capables, dans notre marche avec Dieu, dans les choix que nous devons faire dans notre vie, de parfois compter un peu plus sur nos solutions humaines que sur la protection que Dieu nous a promise. Pour conclure, j'aimerais simplement rappeler, Abraham a choisi de tout quitter. Dans sa vie de foi, dans sa marche avec Dieu, il a accepté de tout abandonner pour suivre l'Éternel. Et c'est une vérité que nous ne pouvons pas non plus et ne négliger dans notre vie avec Dieu. C'est une vérité pour les croyants de tous les âges, parce que nous ne pouvons pas maintenir notre confort de Mésopotamie, si j'ose faire le parallèle, et vivre un engagement avec Dieu. S'engager avec Dieu nécessite forcément un renoncement. Un renoncement à nous-mêmes, un renoncement à notre façon de fonctionner, pour se laisser interpeller par Dieu, se laisser trouver et changer par Dieu, qui va nous conduire dans une autre façon de mener notre vie. Parce que avant de connaître le Seigneur, nous avons notre propre fonctionnement. Et maintenant, lorsque nous donnons notre vie à Dieu, Dieu nous appelle à changer de fonctionnement. Il nous appelle à vivre autrement, à faire les choix de nos vies autrement, en fonction d'autres paramètres. On ne peut pas maintenir le confort de la Mésopotamie et nous engager avec Dieu. Vivre par la foi bouscule forcément notre confort et nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Même encore une fois dans cette situation de résolution humaine, malgré tout, lorsque nous aussi parfois nous péchons, lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous, réalisons bien au travers de cet exemple d'Abraham que Dieu le bénit malgré tout. Il repart de l'Égypte avec des richesses les richesses de l'Égypte. Et ce n'est pas que Dieu bénit la désobéissance, loin de là, mais la bénédiction de Dieu surpasse les conséquences de ses péchés. Et c'est aussi vrai pour nous. Lorsque nous prenons des décisions qui n'honorent pas Dieu, lorsque nous manquons à notre devoir vis-à-vis de Dieu, il va falloir parfois, souvent, en subir les conséquences. Pour Abraham, dans notre texte, il doit partir de l'Égypte la tête basse, il est chassé, il est renvoyé de l'Égypte, donc il ne part pas avec les honneurs, donc il subit les conséquences de ses choix, mais malgré tout, la bénédiction de Dieu est présente sur lui, parce qu'il repart enrichi, il repart plus grand qu'avant. Et pour nous aussi, dans notre situation de vie, lorsque nous désobéissons à Dieu, Dieu malgré tout maintient son engagement par rapport à nous. Il nous comble malgré tout de bénédictions et il nous aide à aller de l'avant. Que ce soit aussi pour nous quelque chose qui nous porte pour notre semaine, vivre par la foi bouscule notre confort. Je vais terminer par la prière.